Et j'ai de la belle visite en studio. Il s'agit du comédien et auteur Jean-Philippe Lehoux. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Jean-Philippe, vous êtes ici pour nous parler d'une plante, d'une pièce.
C'est une plante aussi.
Oui, on va en parler certainement. Alors, le titre de la pièce, c'est « Une plante verte, verte, verte ». J'imagine que vous allez vous faire poser la question très, très, très souvent parce qu'on se demande pourquoi la plante est-elle trois fois verte. D'où est venue l'idée du titre?
Pour susciter piquer la curiosité, je crois, parce que c'est une pièce qui est atypique, donc on voulait un titre pas trop sage, parce que la pièce ne l'est pas trop sage, surtout en théâtre d'été, des fois on a l'impression qu'on est dans des univers très réalistes, et pas ce coup-ci, on part, c'est assez décalé, donc on aimait que le titre plutôt soit décalé lui aussi. Puis il faut le dire vite, je pense que c'est là que ça prend son sens, une plante verte, verte, verte.
Ah oui!
Quelque chose de verte, verte, verte.
Alors j'imagine qu'il faut avoir des plantes vertes, vertes, vertes sur la scène?
Il y a des plantes, oui. On parle d'une invasion de plantes, ni plus ni moins, donc la scène se transforme peu à peu dans une végétation de plus en plus dense. Merveilleux travail scénographique. D'ailleurs, j'ai vu un enchaînement hier, puis ça se précise.
Des vraies plantes?
Pas tout à fait, non, parce que il y en a peut-être une, là, je ne saurais pas dire exactement, mais en tout cas, ça a l'air vrai.
Il faudrait employer un jardinier en plus.
Oui, c'est ça.
Alors, ça raconte quoi, là, cette histoire qui n'est pas nécessairement évidente, là?
Non, la prémisse est assez simple, en fait. On est parti du principe que les plantes, avec leur intelligence supérieure, parce qu'il faut le dire, les plantes ont une grande intelligence, même si on les laisse un peu de côté, puis souvent...
Pour la pièce ou dans la vraie vie?
Dans la vraie vie, okay. En fait, quand on lit sur les plantes, moi, je ne suis pas du tout un botaniste, pas du tout un spécialiste, mais je me suis intéressé aux plantes dans la dernière année, disons, puis c'est assez fascinant, leur résilience, leur intelligence, leur système d'organisation, leur système de tromperie, de duperie, ils ont vraiment une intelligence qui est méconnue.
Et supérieure à l'humain?
supérieure, en tout cas, qui est différente, disons, supérieure, je sais pas, mais qui...
Mais dans votre pièce, elles ont le pouvoir.
Elles ont le pouvoir de notre vie parce qu'elles décident de faire la grève de la photosynthèse.
Ça veut dire quoi, ça?
Ce qui crée, en fait, c'est que les plantes... éviterait de créer de l'oxygène à partir de leur système de photosynthèse. Donc, ça serait évidemment un grave problème pour l'humanité.
Oui.
Et comment, donc, maintenant, entrer en contact avec les plantes? C'est une des premières questions que les personnages se posent dans la pièce, parce qu'ils, évidemment, n'ont pas notre langage. Donc, trouver le langage de la plante. Parce que les plantes communiquent entre elles. Quand on lit des ouvrages sur la botanique, on se rend compte qu'ils ont un langage très fin, avec des sens que nous n'avons pas. Donc, il faut déjà développer un langage autre.
Pourquoi les plantes boycottent les humains? Pourquoi elles ont décidé de faire la grève de la photosynthèse?
C'est ça la grande question, en fait. Pourquoi les plantes voudraient faire ça? Est-ce que ce serait juste pour se débarrasser de nous avec comme une pipe d'une pichenote?
Y a-t-il un petit message écologique derrière ça?
Le voir, mais évidemment, c'est assez inévitable qu'on traite des végétaux en ce moment de c'est inévitable de traiter de cette question-là écologique qui est en filigrane dans le spectacle. Mais c'est fait avec beaucoup d'humour, là. C'est pas du tout moralisateur, au contraire.
Vous êtes pas du genre théâtre didactique, là.
Non, pas du tout.
Non,
c'était vraiment un des points très importants parce que j'ai pas co-écrit, mais j'ai beaucoup travaillé avec mon collègue Charles Dauphiné à la mise en scène, avec qui je collabore souvent. On a une compagnie ensemble, d'ailleurs, et le Petit Théâtre du Nord nous ont conviés tous les deux pour créer la pièce. Et c'est lui qui a eu l'idée, d'ailleurs. On part des plantes. C'est quelque chose dont on ne traite pas beaucoup dans les arts.
Comment c'est arrivé?
C'est vraiment cette idée-là. Il est en train de lire un ouvrage d'un botaniste assez connu qui s'appelle Stefano Mancuso, qui est la référence, Italien, docteur en botanique. C'est fascinant. Il parle beaucoup de l'intelligence des plantes, d'ailleurs. Et le point de départ, c'est vraiment quand on a lu une anecdote dans un de ses livres où il parle de Noé, de l'arche de Noé. Je vais revenir aux plantes bientôt. Et il mentionnait, quand on lit la Bible et quand on traite de Noé, on se rend compte qu'il n'y avait aucune plante sur l'arche. Ce qui est quand même fascinant parce qu'il y avait évidemment des herbivores. Donc, comment ils ont fait pour se nourrir, on ne le sait pas. Et comment la vie a pu survivre si toute la vie sur Terre a été détruite et qu'il n'y avait plus de plantes. Donc, c'est un non-sens. Il n'y avait plus d'oxygène disponible. Donc, déjà, de se rendre compte qu'un des mythes fondateurs de l'Occident, un des grands mythes, était basé sur la présomption que l'humain peut se passer des plantes. Et donc, là, c'est là que ça a été le déclic. On va parler de plantes, mais on va surtout parler de la vanité humaine et de notre idiotie à ne pas voir être dans un déni constant qu'on est un être supérieur, déjà, l'être humain, mais aussi...
On se prend pas pour un 7-up plat.
On se prend pas pour un 7-up plat, en effet. Et surtout qu'on... on a l'impression qu'on peut se passer des autres êtres, qu'on est autosuffisant de ce discours du self-made man, mais même au niveau de l'espèce, et qui est un non-sens. Donc, dans la pièce, le déclencheur de « Ah, les plantes, si elles arrêtaient d'être nos alliés, qu'est-ce qu'on ferait? » Et là, évidemment, c'est une façon de mettre sur table notre idiotie légendaire. Et ça, j'aime beaucoup m'amuser avec l'idiotie de l'être humain parce que je trouve que c'est un réservoir inouï de comédie et de mise en situation absurde. Donc,
on est dans la science-fiction, mais pas tant, finalement. Ouais. Et vous présentez votre pièce comme une comédie à sketch. Est-ce qu'on va plus rire que pleurer, réfléchir?
Oui, sans doute, on va plus rire que pleurer. Quoi, on espère que les gens réfléchissent, comme on dit, on met en filigrane des questions importantes, philosophiques, de l'existence de l'être humain. C'est quoi, on pose des questions, c'est quoi la vie, c'est quoi l'être humain, c'est quoi une plante? Donc, on s'est posé cette question-là aussi.
Est-ce qu'il y a différents types de plantes sur la scène?
Oui, mais on a surtout un type de plante, entre autres, dont on traite, qui est une liane qui est capable de se métamorphoser, du Brésil, et c'est fascinant, capable d'imiter ses hôtes. Donc là, on a aussi imaginé, et Cyl était capable d'imaginer, de se transformer en être humain, par exemple.
Oh.
Parce qu'elle a une capacité de métamorphose assez importante.
Alors, il y a peut-être un comédien qui va incarner une liane, on ne sait pas.
Qui sait?
Parlez-nous donc de la distribution, Jean-Philippe.
Oui, bien, il y a deux comédiens interprètes qui font partie du quatuor de directeur artistique du Petit Théâtre du Nord. C'est eux qui nous ont conviés à la création. Donc, c'est Mélanie Saint-Laurent et Sébastien Gauthier, qui sont des habitués du théâtre. Ils invitent chaque été des nouveaux comédiens, des interprètes. Donc, il y a une jeune comédienne, Andréanne Daigle, il y a Mathieu Richard et il y a aussi le fabuleux Carl Béchard, qui est un interprète lui-même atypique, un peu comme notre titre et notre pièce, avec...
Virtuose,
à plein de niveaux, mais les autres aussi sont très
bons. Il est capable de cabotiner, mais il est capable de tout.
Il est capable de tout, en fait, il y a une grande liberté. Puis, notre pièce, je pense, est un territoire de jeu assez incroyable pour lui, parce que, vous l'avez dit, c'est une pièce à sketch, entre guillemets, bien que au début, on partait beaucoup vers le sketch, et peu à peu, on s'est rendu compte qu'il y avait une dramaturgie, puis un filon plus important qui se détachait, puis on l'a beaucoup nourri, donc c'est de moins en moins à sketch.
Okay.
On voyage dans différents univers, mais il y a un tronc commun à ces univers-là. Donc, il y a beaucoup de personnages différents, mais tout est relié par une histoire centrale.
Est-ce que les comédiens et comédiennes jouent plusieurs personnages?
Oui. Donc, ils naviguent
quel plaisir.
Dans plein de trames différentes. Donc, on les voit sous plusieurs angles.
Et il y a Carl Béchard, justement, j'ai regardé une petite vidéo hier qui parlait de votre pièce.
Oui.
Il disait, c'est pertinent dans l'absurde. Et Mélanie Saint-Laurent finissant en disant, on va partir avec une petite réflexion.
On espère.
Ouais.
Ben, comme je disais tantôt, je pense que moi, le premier, je ne suis pas quelqu'un qui, avant l'écriture de cette pièce-là, avait une grande conscience de la végétation. Pourtant, je suis fils de biologiste, donc j'ai baigné dans ces questions-là écologistes et de la nature depuis que je suis jeune. Mais j'avoue que je ne regarde pas les plantes. Même chez nous, souvent, j'oublie. Ma blonde m'a dit, ne t'as pas arrosé la plante. Je fais, on a une plante là, je ne savais pas. Donc, je pense qu'on a un déni collectif face à la végétation, alors que... C'est quoi? C'est plus de 90% de la biomasse terrestre, c'est de la végétation. C'est là, c'est énorme, c'est essentiel et c'est un bibelot pour nous. Donc déjà,
on tient ça pour acquis.
On tient ça pour acquis alors que c'est essentiel. Et j'invite vraiment les gens à aller lire des choses. Et c'est ce que j'espère que la pièce va provoquer, un intérêt pour la chose. Puis c'est pas nous, on n'est pas des spécialistes. On va pas donner des informations. Il y en a un peu dans le spectacle, mais c'est pas un spectacle didactique. Mais donner... disons, le goût d'aller lire, de plonger dans des ouvrages.
Piquer
la curiosité. Et des réflexions sur qu'est-ce qu'un être humain aussi, qu'est-ce qui nous distingue des autres espèces.
Vivantes.
Donc ça, je pense qu'on réussit à bien le faire.
Et c'est ça, je voulais vous poser la question si vous aviez le pouce vert ou le pouce brun, là, parce qu'on parle de terre, pas du tout.
Pas du tout, non, je suis fasciné par les gens qui l'ont. Non, moi, je suis même aveugle à la végétation. On dirait que je la vois pas.
Mais là, vous la voyez plus.
Là, je la vois
depuis
plus.
La création de cette pièce-là.
Parce que là, je les trouve menaçantes, finalement, les plantes.
Oui. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un qui vit de l'éco-anxiété?
Je pense que ma capacité d'humour me sauve. Je sais pas si c'est une autre forme de déni, mais j'essaye de trouver de l'humour à travers ça.
C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, c'est comme une soupape.
Exact. Ouais. Là, je pense que l'humour frôle toujours la tragédie, mais j'essaye de... il y a un incendie dans la demeure, mais c'est pas une raison pour se taper sa gueule, puis de
ouais.
je veux dire, on essaye de s'organiser à travers cet incendie-là, puis prendre soin les uns des autres. Et l'humour fait partie des soins qu'on peut apporter aux autres, je pense.
Mais on essaie de ne pas garder la tête dans...
Absolument, absolument. Je pense que c'est pas un déni. Je pense que je suis quelqu'un qui lit beaucoup sur les choses, ouais. Pas pour rien que, justement, on fait des pièces comme ça, mais je ne suis pas capable d'aller dans la... Dans l'hyper dramatique, c'est pas ma nature.
Non.
Donc, je trouve d'autres façons de m'impliquer, je pense, artistiquement.
Et Jean-Philippe Lehoux, vous êtes auteur et comédien.
Oui.
Est-ce que vous aimez également les deux métiers?
Oui, vraiment. Je trouve que c'est un balancier délicat. Quand je suis tanné d'écrire, je retourne plus vers le jeu. Quand le jeu est plus tranquille, c'est un milieu bon, incertain. C'est une loterie, souvent. Donc, l'écriture, j'ai un peu plus d'autonomie. Donc, mm-hmm. Je dirais que je suis à 75% auteur, 25% comédie. Je mets plus d'énergie sur l'écriture parce que j'ai plus de liberté, peut-être, mais les deux me nourrissent, puis je comprends mieux le travail des comédiens, je pense, quand j'écris, et vice-versa. Quand je joue, je comprends la responsabilité qu'ont les auteurs autrices, donc j'ai un respect pour tous les corps de métier, pour les concepteurs aussi, d'ailleurs, qui font... Dans notre pièce, on a 5 jeunes conceptrices, faut le dire, 5 femmes. Je trouve ça assez exceptionnel, vidéo, décors, costumes, éclairage, musique, puis elles font un travail formidable.
Est-ce que la mise en scène, ça vous a déjà intéressé?
J'y ai touché un petit peu, soit de la co-mise en scène, mais c'est pas ma force. Je pense que des fois, je répète ce que j'écris aussi en mise en scène, donc je préfère que quelqu'un s'empare de mon texte puis l'amène ailleurs. Et je pense que c'est l'aspect le plus angoissant du théâtre, mettre en scène, parce qu'on a une énorme responsabilité d'orchestration. Je suis pas sûr que... Non, je pense que...
Vous laissez ça aux autres.
Je laisse ça aux autres.
Dans ce cas-ci, à Charles Dauphiné.
À Charles, puis j'ai trouvé mon alter ego.
Comment s'appelle votre compagnie?
Théâtre hors taxe.
Théâtre hors taxe.
Oui, qu'on a fait beaucoup de spectacles autour du voyage, entre autres. Donc, c'est pour ça, de là, le titre.
Et peut-être qu'il y a des gens qui disent, il me semble que c'est une voix que je connais. Mais on vous a vu, entre autres, dans Alix et les Merveilleux.
Oui.
Pour ceux et celles qui ont des enfants, vous avez aimé jouer dans...
Ah, pur bonheur.
C'est à Télé-Québec?
Télé-Québec et Radio-Canada. Ça se trouve encore, d'ailleurs, sur les plateformes.
Ah,
ma
oui.
petite fille de 6 ans la regarde
oui.
religieusement tous les soirs. Donc, je suis un peu tanné de me voir à la télé, mais mes collègues sont bons, puis je suis content que ma petite fille ait quand même une chance qu'elle voit son papa à la télévision.
Avez-vous contribué à l'écriture?
Pas
du
tout.
Non?
Non, justement, ça faisait quand je disais que ça fait grand bien, là, je mettais mon cerveau à off,
oui.
J'allais jouer.
Vous concentriez sur le jeu.
C'était quand même bien costaud. On faisait 65 épisodes par année pendant 3 ans. Donc, on était 4 comédiens par épisode, bien costaud. Mais un pur bonheur, vraiment, ça, c'était formidable. Mais j'invite encore celles qui ont des familles, c'est encore disponible. C'est vraiment une belle émission qui n'est pas didactique, dans le plaisir.
Profitons-en.
Très drôle.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez contre le didactisme?
J'ai rien, mais en fait, c'est juste dans les arts. Je trouve que c'est peut-être pas la meilleure façon.
Ouais.
J'aime même quand on apprend des choses à travers les arts, mais souvent, je trouve qu'il y a des gens qui le font mieux à travers des documentaires. Je suis un grand amateur d'essais, de documentaires, mais souvent, je trouve qu'on le fait moins bien en art, que l'art a d'autres fonctions plus émotives,
ouais.
plus, de créer des images qui vont être tout aussi importantes, mais je trouve, tu sais, entre un essai de 800 pages philosophique et une pièce d'une heure et quart, bien évidemment, on ne peut pas atteindre les mêmes objectifs, fait que j'ai absolument rien contre l'apprentissage, au contraire, mais des fois, dans l'art, c'est pas le meilleur véhicule.
Ouais, oui, il y a quelque chose une sorte d'éducation aussi qu'on peut retirer de l'art.
Mais absolument.
Mais de façon... ça clignote pas nécessairement. Là. C'est pas nécessairement la chose qu'on met de l'avant. Là.
Exact.
Ouais.
Je pense que ça passe... comme je disais tantôt, donner le goût ou juste une phrase qui va résonner puis après qui va ouvrir une réflexion.
Ouais.
Mais c'est beaucoup aussi... spectateur, spectatrice aussi, je pense, de poursuivre la réflexion.
Est-ce que vous auriez aimé jouer dans Une plante verte?
Oui, sans doute. Après, c'est des gros défis de jeu. Il y a beaucoup de niveaux de jeu. Il y a beaucoup, on cherche... on a cherché longtemps le ton. Je pense qu'on le trouve. Mais oui, je pense que j'aurais aimé ça. C'est la belle comédie. J'aime ce genre de délire.
Alors, on est à quelques jours de la grande première.
Ouais.
C'est le 20 juin, ça
ouais,
s'en vient.
Exact.
Et vous allez jouer jusqu'au 24 août, les
ouais.
jeudis, vendredis à compter de 20h, le samedi à 16h. Il y a un mercredi, celui du 14 août à compter de 20h, et ça se passe au Centre de création de Boisbriand. Est-ce que c'est un endroit que vous connaissiez?
J'étais allé voir quelques pièces déjà auparavant, les deux dernières années, je crois. Donc, c'est un magnifique lieu qui a été construit pour cette compagnie-là avec la ville de Boisbriand.
Le Petit Théâtre du Nord.
Une magnifique salle qui ressemble un peu à la Grande Licorne, pour ceux qui connaissent.
Ah oui!
Donc, une salle de 150, 180 places, là, dépendamment de la configuration.
La Grande
très
Licorne
accessible.
Qui est sur Papineau, coin
exact,
Montréal.
Exact. Et très belle salle, accessible à tout le monde. Très, très belle.
Mais on invite les gens à aller voir cette pièce. Et je vais donner l'adresse du Centre de création, 305 Chemin de la Grande Côte, si on veut avoir des billets.
Sur le site du Petit Théâtre du Nord, super facile, où vous pouvez appeler ou sur le site Internet, c'est facile.
Bien, je vous souhaite un bel été,
merci.
Jean-Philippe Lehoux. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Jean-Philippe, qui est le créateur, l'auteur de Une plante verte, verte, verte.